que la Polynésie a bien voulu être le siège de ce grand, de cette grande organisation destinée à donner à la puissance française le caractère de la dissuasion qui peut, qui doit, à tous, dans un monde dangereux, vous assurer la paix. C'est vrai.
Charles de Gaulle, en 1966.
Il y a d'ailleurs, si j'ose dire, des compensations. Le développement qui accompagne cette organisation du genre est éclatant. Ce qui doit suivre ne le sera pas moins.
Où se déroulent les expériences atomiques françaises. C'est là que viennent d'être affectés Tanguy et La Verdure, chargés de tester en vol une nouvelle méthode de prélèvement des retombées radioactives.
À la section Alouette de Hao, où je retrouve Philippe Prineur, qui lui donc est arrivé un an plus tôt et a participé aux essais de 67. Il a participé aux explosions des trois bombes de 67. Et la section Alouette en particulier était sollicitée pour aller faire des prélèvements au point zéro, ce qu'il a fait lui. Il fallait déterminer une zone qu'ils appelaient le bouchon de champagne, qui était dessiné sur, en essayant que les vents soient dans le bon sens, pousser tout vers l'île de Pâques. Et donc, ils mettaient en place des météos sur tous les atolls pour bien surveiller ça et qu'au moment où ils appuyaient sur le bouton, le vent soit dans le bon sens. On sait maintenant que même quand les vents n'étaient pas bons, mais si le général de Gaulle voulait voir l'explosion, ils appuyaient quand même. Ils ont été surpris, c'est-à-dire que le vent a tourné au dernier moment. Et donc, l'atoll de Tureia, comme d'autres atolls comme Mangareva, ont pris leur dose de radioactivité. Ils ont déménagé tous les gens de Tureia en 68. Ils les ont amenés à Hao, et ensuite ils les ont amenés à Papé. Et ils les ont ramenés après. Mais l'atoll, il était contaminé, et là, ils n'ont jamais rien fait pour. Et aujourd'hui, il meurt à Tureia, il meurt de cancer à l'appel. Mangareva et Tureia, ils ont vraiment été touchés. Quand ils se sont rendus compte qu'à Mangareva, ils avaient irradié l'atoll, ils avaient prévu une grande fête avec la population, où tous les militaires devaient manger avec et tout, et la population arrivait avec tous les légumes et tout pour faire. Et d'un seul coup, ils disent, vous jetez tout, c'est pas la peine, non, il n'y a plus de fête, terminé, et tout. Ils venaient de se rendre compte qu'ils avaient irradié complètement tout l'atoll, quoi. Alors les populations, elles se demandaient, elles comprenaient pas, elles disaient, avant on leur fournissait tous les légumes, maintenant ils n'en veulent plus.
Un jour, on s'est dit, mais non, il ne faut pas continuer. Non, non, on est en train de collaborer à un truc qui ne va pas du tout. Non, non, on arrête, quoi. Il faut arrêter. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On le dit, on s'en va, mais qu'est-ce qu'on fait? Bon, ben, on va écrire. On écrit à l'amiral. On commence à écrire à notre commandant. Et on décide un matin de faire ma lettre. Chacun fait sa lettre. Donc Philippe, lui, il argumente une lettre, il fait rentrer, oui, un truc. Moi, je fais plus une lettre type objection de conscience. En conscience, je refuse de participer plus longtemps de sanitaire. Il y a une espèce de mûrissement qui se joue à travers ça. Voilà, vous êtes perdu au fond du Pacifique, vous profitez bien de la vie, c'est sympa, tout ça. Et en même temps, vous voyez des choses qui sont tellement déconnectées qu'il n'y a que deux solutions, comme la majorité des gens, ou comme on aurait pu faire, si on avait continué, d'ailleurs ce qu'on a fait pendant 8 ans, parce qu'on a vu d'autres choses aussi, on réagit en disant, ouais, ben, je me dis, hein, puis je fais mon truc, et puis je continue. Voilà, parce qu'ils ne sont pas prêts de le dire, en disant, mais il vous reste 9 mois à faire pour terminer. On vous met quelque part ailleurs, vous terminez vos 9 mois, puis vous vous écrasez, quoi. Et là, c'était non. Et là, c'était cette réflexion, cette espèce de mûrissement, faisait qu'on avait envie de dire non. C'est-à-dire, on ne voulait plus jouer ça. C'est-à-dire, il y avait 4 pilotes, 10 mécaniciens. Le gars, c'était un breton. Il commence à prendre le nez et dit ouais, ben, vous avez peut-être raison, ouais, parce que, et voilà. Bon, mais quand même, réfléchissez, faites quelque chose. Oui, réfléchissez quand même, parce que c'est quand même. Oui, bon, revenez tout à l'heure. Non, là, vous êtes des petits cons, c'est terminé, votre lettre, je la déchire, vous rentrez dans vos cabanes, là, et on va parler de ça. Et alors, on dit, non, il y a une question. On retourne à la machine à écrire, on retape les lettres, et on passe devant son bureau, et on va chez le commandant, qui, bien sûr, tout ce monde était au courant. Alors, lui, beaucoup plus mielleux, tout ça, etc., il nous fait des propositions en disant, mais peut-être qu'on peut vous employer ailleurs, et tout, et c'est niais. Et là-dessus, donc, il nous libère, il est midi, on prend la copie de nos lettres, on les affiche au mess. Donc, il y en a deux ou trois qui se fâchent contre nous, puis les autres, ils disent pas trop rien, voilà. Et puis, on remonte à notre fameux Faret. Et là, on était trois ou quatre à vivre, là, pas plus, il y en avait trois ou quatre qui étaient... Et il y avait un qui était à côté de nous, qui était celui de l'aumônier. Et l'aumônier n'était pas là pendant cette période, il rentrait ce jour-là. Et en arrivant là-haut, on le trouve. Et il nous dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Alors ben, on lui dit, mais l'évangile. Alors, on faisait référence à ce côté. On est chrétiens tous les deux au départ. On ne pratiquait pas. Alors il nous dit, non, mais il faut faire attention les gars. Non, on ne peut pas faire ça comme ça, etc. On lui dit, qui c'est qui a raison? C'est Gandhi? C'est Luther King ou c'est les militaires? Alors, oui, j'ai lu leur livre, c'est bien, c'est intéressant. Enfin, visiblement, il était coincé. Et là-dessus, donc, Philippe rentre dans la maison, et puis moi je le suis. À ce moment-là, je suis très étonné, j'avais oublié quelque chose. Je rentre, et j'entends qu'il téléphonait, « Non, mon colonel, je n'ai plus rien faire. » Donc, je comprends que, voilà. Et deux, trois minutes après, il vient nous voir, il nous dit, « Bon, vous êtes convoqué à l'infirmerie, et voilà. » Bon, donc, on est descendu, et puis là, nous arrête. Là, on est plus retourné dans notre chambre, que pour prendre nos affaires, accompagner après. Et donc là, ils ont fait venir le directeur de la sécurité maritime de Papette qui est descendu en avion. On a eu droit au psychiatre, on a eu droit à l'aumônier, pas celui-là, un autre. On a eu droit à la sécurité militaire. Tous ces gens-là essayant de savoir pourquoi on avait déclenché tout ça, quoi, parce que c'était quand même assez étonnant pour eux. ces gens qui nous ont reçus, il y avait un colonel médecin. Et ce colonel médecin nous a dit, écoutez, moi je comprends ce que vous avez fait, parce que moi j'ai milité pour la guerre d'Espagne à l'époque. Ceci dit, attention, il y a d'autres gens qui ont fait comme vous. Ils n'étaient pas sous-officiels, mais ils sont partis en section psychiatrique à Papette, on en entend parler. Donc n'allez pas dire non à l'armée, tout ça, du pacifisme de base, parce que là, vous allez, ça va mal se passer. Donc, on a enregistré, mais on n'était pas partis pour ça. Et donc, ça a duré comme ça, 36 heures. Et puis, finalement, on a été convoqué chez le commandant de la base, qui lui, c'était un gars de l'armée de l'air, il était vraiment pas content de notre histoire. Parce que, normalement, ce gars-là, il devait passer général. Et des histoires comme ça, c'est jamais bon. Donc, il nous a dit, oui, moi je les connais, les non-violents. Je les ai vus avec des mitraillettes dans le maquis. Oui, je les ai vus. De toute manière, Paris a décidé, vous êtes rapatriés demain sur la France. Par l'avion qui amène les bombes, il y a un avion, le DC-8 qui amène les bombes, il sert de rapatriement sanitaire pour les familles dans l'autre sens. Le lendemain soir, ils nous ont envoyé une jeep avec deux sous-officiers pour nous amener à la guerre. Et donc, à ce moment-là, quand on est sorti de l'infirmerie, tous les copains sont sortis sont venus nous mettre des colliers, parce que c'est la tradition. Ce qui avait été rigoureusement interdit, ce qu'on ne savait pas, par le commandant de la base qui avait dit pas d'accord, personne ne et surtout pas de collier ni rien du tout. Alors voilà, on a discuté un petit peu, après finalement on est monté sur le tarmac. Ensuite, le gars qui était à la tour, qui nous connaissait bien, puisqu'on trafiquait avec lui quand on décollait et tout ça, il est descendu pour venir nous dire au revoir dans l'avion, il s'est fait jeter évidemment, et puis on était dans l'avion. Ça, ça a été notre démarche habituelle. Chaque fois qu'on rencontrait quelqu'un, on accrochait comme ça et on disait on va en prison. Alors, où on est en prison? Alors, les gens disaient pourquoi? Et puis à ce moment-là, on engageait la discussion. Voilà, voilà. Et on racontait notre histoire. On a fait que ça. On a fait que de raconter ce qui nous était arrivé. Et ça a été une très grande force parce que justement, tous ces gens des sécurités et tout ça, ils cherchaient ailleurs. Ils voulaient savoir si on était des communistes, si on était. Et ça, ça les désarçonnait parce qu'on était dans leur monde en fait. C'est l'autre raison pour laquelle la France, avec ses moyens et son président, a cru devoir entrer dans la voie qui lui procurera l'armement, il faut bien le dire, nécessaire pour être elle-même.
Dans les jours qui ont suivi, j'étais convoqué devant un gars qui m'a dit « Je suis l'officier rapporteur du conseil de discipline. » Donc, je vais vous questionner et faire exactement comme ça, c'est enregistré. Et là, il sort un classeur. Je vous mens pas, c'est le classeur. Incroyable. Et il commence à ouvrir. Et là, je vois photo de notre chambre. Dans le moment où on avait été mangé, dans cette heure-là, la sécurité militaire a été venue dans notre chambre. Ils avaient tout fouillé, tout filmé, tout, pas filmé, photographié. Et tous les trucs qu'ils avaient pris en photo, donc prière de donner des explications. Donc on avait affiché un morceau d'encyclique, la course aux armements, laisse les peuples pauvres, voilà, etc. Pourquoi vous avez écrit ça, hein, voilà. Le président du conseil de discipline, qui était le commandant de la caserne, lui il est au courant du dossier, l'officier rapporteur est au courant du dossier. Et là-dessus, il y a un commandant de bateau, des moniteurs qui nous ont formés, un sous-officier du cadre de Mestrance, c'est-à-dire qui n'est pas contractuel comme nous, qui est vraiment du métier. Et là, l'officier rapporteur, il met en route le magnéto. Il écoute, et tout le monde écoute. Pendant presque une heure, la bande, c'est le compte-rendu de toutes les questions qu'ils nous ont posées. Wow.
donc, ce conseil de discipline a pour objet de dire si les maîtres crinoïdes et riondés doivent être cassés et dégradés et mis à l'abandon. Et donc, voilà, et puis on attend encore 8 jours, et c'est là qu'on voit arriver l'officier rapporteur vers 16h30. On est appelé dans le bureau par le haut-parleur. Moi, j'arrive le premier. Donc, effectivement, c'est confirmé qu'on est dégradé, mis à la porte de l'armée, et pour vraiment se débarrasser de nous, viré dans l'armée de terre. À titre de réserviste. L'insulte absolue, tu sais.
Retour à la chapelle, retour au direct du plateau. C'était la seconde partie de La Bombe, documentaire sonore de Charlotte Roux et Benoît Bory. Et les images étaient de Nick Nada et Julie. Incroyable de vrai, mais on est en train d'arriver au bout de ce marathon radio. C'était, on a commencé à 10h17 ce matin, il est 20h17. On va se quitter dans quelques instants avec le concert de la chorale révolutionnaire, la canaille du midi. Alors, il n'y a que mon micro qui marche. Bon, ben, il y a toute l'équipe qui est en train d'arriver. Diane, Eric.
Non, il y a le mien qui marche.
Ah, on a deux micros.
Si je veux, je parle.
Bon.
Je ne mets pas le micro. Ah, si vous aviez le micro, pardon.
Bon, ben, c'était une belle journée.
Ça a été intense. Bravo à vous d'être venus, hein, d'avoir supporté tout ça. Et je ne sais pas si vous avez tout écouté, mais en tout cas, nous, on s'est bien. Bien fait chier, bien amusé aussi à le faire, mais bien fait chier quand même à faire tout ça, mais c'était chouette, c'était une belle semaine où entre les 6h mercredi et les 10h17 d'aujourd'hui, c'était vraiment chouette de revenir sur cette histoire d'AZF. On a appris plein de choses, on espère qu'on les a fait partager aussi, et puis à la revoyure. Hein.
Ouais, alors on va quand même saluer les techniciens.
Tu crois
qui étaient nombreux.
Techniciens et techniciennes très nombreuses derrière les platines. Les barmaids et barmanes très nombreux et nombreuses derrière le bar.
Ouais, les bénévoles en général.
On est un peu toutes bénévoles en fait.
Ah bon? T'es pas payé?
Ah merde.
On en reparlera.
Est-ce qu'on peut en parler justement? Non, on en parle en public, il n'y a pas de raison. Et en fait, voilà, c'est la deuxième année qu'on fait ça, c'est très bien, et c'est possible parce qu'il y a plein de gens qui viennent et qui apportent au moulin, et au moulin qui tourne, et qui n'est pas un moulin à poudre, et pourtant on a du grain à moudre, et vraiment c'est du bon, c'est du beau, c'est du bonnet, donc il reste de la bière, n'hésitez pas à boire de la bière, et vraiment merci à tous et à toutes, vous pouvez dire au revoir, et il y a vraiment plein de gens qui nous ont aidés, en fait c'est innombrable les petites fourmis qui apportent à chaque fois pour que cela est possible. Et des fois, on voit une ou deux personnes comme ça, et enfin, il y a plein de gens. Alors, on ne dira pas sans qui tout cela était possible, parce qu'en fait, on a tous et toutes fait des choses pour que ce soit possible. Mais il y a vraiment, vraiment beaucoup de gens qui nous ont envoyé des textes, qui nous ont envoyé des sons, qui ont poussé des potards, qui ont fait des courses, etc. Et on a fait ça aussi, et pendant que la canaille s'installe, on parle de ça, et merci à tous et à toutes.
Non, Eric. Merci à Mimi Michel, merci à Shotgun, merci à Lamine, merci à Infidèle Orchestra, et merci à la canaille. Hein.
Il faut le dire quand même avant de passer la parole à la canaille, enfin la parole, les micros à la canaille. La semaine, quand votre vie fait boum, n'est pas tout à fait finie. Lundi, il y a encore des choses à la radio sur l'antenne de Canal Sud, 92.2 FM ou canalsud.net. À 10h17, on reviendra sur des catastrophes industrielles hors normes. de Srimil Island à Fukushima, les catastrophes nucléaires.
Alors, et... Attends, excuse-moi, j'ai avec moi Nico, qui vient vers moi et qui me dit que c'était super bien. Nico, comment ça se fait?
Pour une journée complètement improvisée, franchement, c'est bien.
Oui, parce qu'on avait prévu ça quoi, il y a une semaine finalement.
On s'était filé à Roca, et en fait, de Roca en Roca, on s'est raté. Mais vraiment, ça marche bien.
Alors moi, je voulais dire juste un petit mot. Parce que c'est vrai qu'on est peut-être nombreux et nombreuses, mais on est plus nombreux que nombreuses. C'est dommage. En tout cas, c'était bien chouette. Et puis, ça fait toujours plaisir. Et puis... on fera sûrement mieux une autre fois, quoi. Ouais. Mais ça serait chouette qu'on soit plus de filles, moi, je dis ça comme ça.
Et en tout cas, on fera une autre fois, avec plus de filles, on espère. Allez, je termine le programme du 26 septembre, 10h17, petite pastille sur les catastrophes nucléaires. Et puis après, le dernier rendez-vous, ce sera de 12h30 à 14h, le front du lundi, qui sera consacré à l'industrie de guerre avec l'Observatoire de l'armement. Je crois que la canaille est en place. Tout est en
non,
place.
Non, la canaille n'est pas en place, il y a un technicien qui va rejoindre la canaille.
Ah.
Donc voilà, on change un peu de... Donc c'est fini, on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup, la prochaine fois, que faire, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on pourra faire. En tout cas, il y a une révolution qui nous reste à faire.